RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Bon, je vous dirai pas le temps qu'il fait, hein, vous avez qu'à regarder par la fenêtre. Hein. Bon, c'est quand même pas moi qui vais faire Monsieur Météo en mettant mes bas, hein, quand même. Alors, j'ai un petit invité avec moi qui s'appelle Kylian, il va nous dire bonjour.
Bonjour.
Voilà. Oui. Alors, il est là, observer comment on fait de la poésie. Et je le soupçonne, en quittant la radio après l'émission, de me demander du papier et un crayon, et de vouloir commencer à faire des poèmes. Et ça serait une belle chose, d'ailleurs, ça. Oh, que ce serait merveilleux. Hein ? Bon, on verra ça. Hein ? Alors, là, encore, moi, j'aime bien commencer par moi, à chaque fois, après tout, c'est quand même moi le chef, hein, dans mon émission. Hein. Bon, c'est un peu normal. Rimbaud, Baudelaire, ils vont pas me faire chier pour me piquer ma place tout de suite, à la première seconde de la radio, quand même. Alors, j'ai fait un poème, oh, il n'est pas tout jeune, hein. Il a 10 ans. Le 26 mai 2014, et j'ai écrit à 21h17. Mais je soupçonnerais que, vu la longueur de ce poème, peut-être qu'à minuit, je n'avais pas encore fini. Peut-être. Mais je ne mets que l'heure d'arrivée, je ne mets pas l'heure de départ, je ne mets pas l'heure d'arrivée hein, de mes poèmes. Bon. Et ça s'appelle « Quand un pléonasme se prend pour du sparadrap ». Eh oui, ça arrive, ça. Il y a Kylian, il me regarde les yeux. Il dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ?»« Quand un pléonasme se prend pour du sparadrap ». Tu vas l'écouter, comme ça tu sauras pourquoi. Hein. Mon dernier pléonasme n'avait jamais connu le grand Robert et encore moins le petit Larousse. Oh, je ne parlerai pas du Wikipédia plat. Hein. Car le virtuel, pour un pléonasme, est souvent un fourre-tout sans armes. Hein. Malgré leur présence à l'école, mon petit dernier ne savait lire que la carte des desserts. Et, sauf quand il y avait de la déconfiture amère. Hein. Mais comment aimer un entremot quand on oublie d'y mettre des virgules vanillées et des esperluettes accentuées par la fatigue. D'ailleurs, le dernier mot de ma page de devoir épelait tout, les espaces tellement espacés que j'y avais mis un troupeau de points-virgules sans le point pour raccrocher les mots par la peau du dos. L'intervalle, lui, qui se sentait trop éloigné de mon pléonasme, se prit d'une colère digne d'un point d'exclamation. Le gros mot assis sur une ponctuation refusa d'y descendre à cause de certaines phrases ambiguës qui se prenaient pour de la prose trop libre et trop sexuée. La seule condition était que le point tenant la ligne ne pêche pas, par orgueil, entre les espaces laissés vides par certains mots. Que faire sinon mettre tout cela dans la corbeille à papier au risque de laver la page blanche de tout soupçon qui aussitôt sera oubliée sur la table de ce vieil amateur de pléonasme. Mais c'était sans compter sur la phrase qui ne voulait rien dire, mais qui agissait au verso du papier. L'Arménie avait décidé de ne plus produire de papier du même nom, sans l'assurance de la commercialité, partout où l'écriture avait le droit à la parole. C'était du son ou de l'écriture. Du coup, le plus grand poète arménien s'exila en Turquie et prit comme domicile une belle chiotte au centre-ville d'Istanbul afin de servir enfin à quelque chose d'utile pour les fesses charnues des belles femmes turques en mal d'harmonie. Ben oui, mais c'est du papier d'harmonie. Hein d'Arménie. Non, d'harmonie. Eh oui, du papier d'harmonie, c'est mieux que du papier hygiénique. Hein. Ça fait moins mal aux fesses. C'est bien connu, ça. Ceci n'est pas une fiction de plus afin de faire mieux comprendre aux poètes riches en provocation, même s'il faut faire mine de ne rien écrire, qu'il faut respecter le papier et parfois le goupillon à mots. Le papier et le goupillon, ça va toujours ensemble. Vous mettez le papier, c'est après le goupillon, hein, au cas où. Hein. Bon. Et comme tout bon français, j'adorais ces phrases qui s'animaient sans vouloir rien dire, sinon juste pour le plaisir de se lire. J'avais par inadvertance, mais néanmoins, avec l'envie d'écrire, un nouveau pléonasme plein de vie et de non-sens. Mais celui-ci, sans le contrôler vraiment et avec son manque de discernement, avait réussi à s'approcher d'une certaine vérité. Il osa pour la première fois dévoiler pourquoi il est né en m'accusant d'en avoir la paternité. D'ailleurs, après réflexion, c'est celui que je préférais pour sa franchise et sa logique. Ce qui est très rare pour un pléonasme, malgré la définition dans les books. Bon, les livres, hein. Bon, book, c'est un mot anglais. Bon. Ça, mais c'est rare que je mette un mot anglais dans mes poèmes. Hein. Mais bon, là, je voulais pas faire, je voulais pas que les Anglais se fâchent, c'est pour ça. Mais comme nous étions à l'ère des pédiatres, pardon, les wikipédiatres, ouais, pédiatres, hein, où tout pouvait s'écrire sans la surveillance de Robert et Larousse, les deux mamelles du français authentique, mais sans le lait écrémé. La moralité de cette histoire vécue voudrait, décidément. Je finis toujours ma prose très libre, mais néanmoins maîtrisée par ce besoin de vous offrir une partie de mon respect pour mes mots d'espace d'un point à la ligne. Alors, la ligne en pur bambou non transgénique, mais en vernis marine sous peine d'augmenter la corrosion. Les hameçons ne sont pas compris dans le prix. Compris ? Bon. Compris ? Non. C'est pas compris dans le prix. Bon. Allez, on va passer à autre chose. Tiens, je vous fais un petit festival de Prévert aussi. Tiens. Allez, pour la peine. Cortège.
Cortège. Un vieillard en or avec une montre en deuil, une reine de peine avec un homme d'Angleterre, et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer, un hussard de la farce avec un dindon de la mort, un serpent à café avec un moulin à lunettes, un chasseur de cordes avec un danseur de tête, un maréchal d'écume avec une pipe en retraite, un chiard en habit noir avec un gentleman au maillot, un compositeur de potence avec un gibier de musique, un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots, un repasseur de Coligny avec un émiral de ciseaux, une petite sœur du Bengale avec un tigre de Saint-Vincent de Paul, un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie, un contrôleur de la table ronde avec des chevaliers de la compagnie du gaz de Paris, un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l'orange, un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière, un remorqueur de famille nombreuse avec un père de haute mer, un membre de la prostate avec une hypertrophie de l'Académie française, un gros cheval in partibus avec un grand évêque de cirque, un contrôleur à la croix de bois avec un petit chanteur d'autobus, un chirurgien terrible avec un enfant dentiste et le général des huîtres avec un ouvreur de jésuites.
Eh oui, alors ça j'aime bien parce que c'est un peu comme ce qu'on appelle un inventaire à la Prévert. Et en ce moment, je suis en train d'en faire un. Bon, je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, je pourrais vous le lire. Mais j'en ai d'autres, j'en ai fait déjà dans mes fameux livres « Balade poétique dans un Prévert ». Alors, là, je vous sors mon 3e tome de « Fleurs de femme ». Ça s'appelle « La négresse verte ». Je suis écrit en mars 2011... à 15h, parce que je pense que c'était au moment où j'étais dans le jardin de Marquessac. J'étais revenu au jardin de Marquessac après avoir oublié les senteurs et le ce buis domestiqué, là où j'avais rencontré l'épistolière, au coin des poètes. J'avais volé Perle à l'Afrique pour lui faire vivre une nouvelle vie parmi les Blancs. En se promenant dans ses rondeurs vertes avec elle, elle en prenait presque la couleur. J'imaginais toute ses rondités végétales avec celle de Perle. Si le poète Georges Fourès avait sa négresse blonde, moi je venais de découvrir la négresse verte dans ses jardins de buis taillés par l'imagination d'un jardinier amoureux des rondeurs de femmes. Perle admirait ce jardin inimaginable en allant de rondeur en rondeur sans savoir ce qui se passait dans ma tête de poète. Perle venait, par sa présence, de remplacer l'épistolière. L'écrivaine n'était pas revenue sur les lieux de notre première rencontre. Je soupçonnais cette errance de jardin en jardin avant d'en provoquer la poésie là où le poète cherche ses vers pour en faire un jardin de belle prose. Perle posait à chaque buisson en fixant l'objectif comme pour immortaliser ce moment exceptionnel. Sa main parfois caressait ce feuillage, vert si discipliné. Elle allait d'allée en belvédère, de buis en buis, de regard en sourire. Le siège du pape lui semblait tellement sain qu'elle n'osa s'y asseoir. Elle imaginait des enfants noirs dans ce labyrinthe dessiné pour eux. Au loin, de l'autre côté de la vallée, son regard se posa sur les murailles de Bénac, de Castelnau, les Milandes, avec l'envie d'y aller un prochain jour pour y découvrir une partie de l'histoire des Blancs et d'une Noire. Alors, quand je dis dune noire, c'est les Milandes, hein, donc Joséphine Bicaire, bien sûr. Elle comprit donc que cette vallée avait un passé guerrier où le sang avait coulé et provoqué mille malheurs parmi les femmes et les enfants. Perle, en redescendant de ce jardin magique, eut un dernier regard pour un pan qui ne voulait pas faire la roue. Ce fut le seul regret de cette journée magique. Voilà. Donc, c'était une balade au château de Marquessac, parce que c'est super chouette. Je pense que ceux qui n'y ont jamais été feraient bien d'y aller. Vous voyez, c'est n'importe comment. Les buis, en plus, c'est toute l'année. Hein, ça fane pas, les feuilles ne tombent pas, ça reste vert toute l'année. Hein. Bon, de temps en temps, il y a une petite feuille qui tombe parce qu'elle en a marre d'être avec les autres, mais c'est normal. Bon, on ne peut pas non plus l'obliger. Hein. Alors, tiens, un Raymond Queneau. Il y a longtemps, je ne vous ai pas lu. Je ne vous lisais pas beaucoup du Queneau, hein, mais en final, je me suis aperçu que j'avais un bouquin de lui dans la fameuse collection Poésie Gallimard. J'ai à peu près une cinquantaine de bouquins des différents poètes, en fait, dans cette collection-là. Et alors, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'espèce, enfin, un poème, L'espèce humaine. L'espèce humaine m'a donné le droit d'être mortel, le devoir d'être civilisé, la conscience humaine, deux yeux qui, par ailleurs, ne fonctionnent pas très bien, le nez au milieu du visage, deux pieds, deux mains, le langage. L'espèce humaine m'a donné mon père et ma mère, peut-être des frères, on ne sait, les cousins à pelleter, et des arrière-grands-pères. L'espèce humaine m'a donné ces trois facultés, le sentiment, l'intelligence et la volonté, chaque chose de façon modérée. L'espèce humaine m'a donné 32 dents, un cœur, un foie, d'autres viscères et 10 doigts. L'espèce humaine m'a donné de quoi se dire satisfait. Voilà. Bon, alors, ça aurait été un animal, un chat, il n'aurait pas pu dire la même chose. Hein. Ça, c'est évident. On ne peut pas non plus... Hein. Alors, tiens, Pablo Neruda. Là, je ne vous passe que des bons, là. Hein. Bon, à part Méliès, tous les autres sont bons. Hein. Alors, Pablo Neruda, le cheval des rêves. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une date ? Non. Superflu, me regardant dans les miroirs, avec un goût de semaine, de biographe, de papier, j'arrache de mon cœur le capitaine de l'enfer. J'établis des clauses infiniment tristes. J'erre d'un point à l'autre, j'absorbe des illusions. Je bavarde avec les oiseaux dans leur nid. Et eux, souvent, d'une voix fatale et froide, chantent et font fuir les maléfices. Il y a un vaste pays dans le ciel avec des superstitieux tapis dans l'arc-en-ciel et des végétations vespérales. C'est vers lui que je vais, et grande est ma fatigue, foulant une terre retournée de tombes encore fraîches, je rêve encore ces plantes aux fruits indécis. Je passe entre les enseignements possédés, entre les sources, vêtu comme un être original et abattu. J'aime le miel, usé de respect, le deux catéchisme, entre les feuilles duquel dorment les violettes vieillies, évanouies. Souvent, on mettait des fleurs, vous savez, dans les pages. Alors, bon, les violettes, c'était souvent... Bon, alors, il y en a qui arrivaient même à mettre des trèfles à 4 feuilles. Hein. Moi, j'ai essayé de mettre un trèfle à 5 feuilles, ça n'a pas marché. Non. Alors, j'avais usé de la colle, mais dans le coup, la colle n'était pas sèche. Ça collait les pages, et bien le trèfle à 5 feuilles, on ne pouvait plus le voir. Et on ne pouvait plus lire ces deux pages-là. Il faut être con quand même, hein, pour faire des conneries pareilles. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas aux autres que je dis faut être con. Hein. C'est moi qui ai fait la connerie, c'est pas vous. Hein. Bon, vous inquiétez pas. Hein. Alors, je continue. Bon, les trèfles, oui. Alors, où est-ce que c'est, les trèfles? Oui, attendez. Alors, le miel, oui. Bon, les deux cadets, oh, les balais. Ah, voilà, je vais être vieilli, épanoui. Et les balais, au secours émouvant, dans leur apparence, il y a sans doute cauchemar et certitude. Je détruis la rose qui siffle et la ravisseuse anxiété. Je brise les extrêmes aimés, et plus encore. Je guette le temps uniforme, sans mesure. Une saveur que j'ai dans l'âme me déprime. Quelle horreur a surgi. Aurore, hein, pas aurore, c'est-à-dire le matin. Hein. Quelle épaisse lumière de lait, compacte, digitale, me protège. J'ai entendu hennir son rouge cheval, nu, sans fer et radieux. Je survole avec lui les églises. Je galope à travers les casernes désertes de soldats et une armée impure me poursuit. Ses yeux d'eucalyptus vole l'ombre. Je ne savais pas que les eucalyptus avaient des yeux, mais j'ai un eucalyptus chez moi, il n'a pas d'œil. Hein. Non, non. Il a des feuilles qui tombent, voilà. Son corps de cloche galope et frappe. J'ai besoin d'un éclair de splendeur persistante, d'une parenté joyeuse qui assume mes héritages. Point la ligne. C'est fort, hein. C'est vraiment fort, là. Voilà. C'est du Pablo Neruda. Voilà, tout simplement. Allez, tiens, on va passer un petit prévert encore. Je vous l'ai dit, c'est un festival, hein. Le Noël des ramasseurs sauvages.
De neige.
Ramasseurs de neige. Ah oui, par Catherine Sauvage. Voilà.
Nos cheminées sont vides, nos poches retournées. Nos cheminées sont vides, nos souliers sont crevés. Pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. Mais voilà la neige qui tombe de tout en haut. Elle a dû se faire mal en tombant de si haut. Courons, courons vers elle, courons, courons avec nos pelles. Courons la ramasser, puisque c'est notre métier. Jolie neige nouvelle, toi qu'arrive du ciel. Donne-nous des nouvelles, des choses de ce côté. Dis-nous, dis-nous la belle, dis-nous en vérité. Quand est-ce donc à Noël, tomberont de là-haut les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Nos cheminées sont vides, nos poches retournées. Nos cheminées sont sont crevés et nos enfants livides dansent devant nos buffets. Et pourtant c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël.
Et voilà. Alors, moi, je ne vous dirai pas joyeux Noël maintenant. On va peut-être attendre un petit peu quand même. Hein. On pourra peut-être attendre quand il va neiger. Mais il paraît que cette année, il ne va pas neiger. Donc, il n'y aura pas de Noël. Désolé pour vous. Bon. Alors, le lundi 29 avril 2013, à 11h05, j'ai écrit un poème qui s'appelle « J'ai dans mon cœur ». Trois petits points. J'ai dans mon cœur des bombes qui n'éclateront jamais, des rancœurs, des douceurs pour l'une d'entre elles, des chats de ma chienne pour celles qui minaudent autour de moi, des lièvres pour celles qui m'ont posé un lapin, des écheveaux pour mes amazones, des amas sur la zone, pour ma chiffonnière préférée, des ours blancs pour habiller mon esquimaude, des ours noirs pour déshabiller ma négresse verte, et puis je prendrai un chemin de traverse, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs de vieillesse. Je marcherai sur la tête en regardant le peuple avec mes pieds de nez. Je ferai l'amour sur le bout des doigts, afin de ne pas faire trop de bruit. Je prendrai mon train de vie à témoin afin de l'augmenter. Je donnerai ma langue au chat d'une aiguille, afin de ne pas le faire piquer. Je prendrai ma vessie pour une lanterne magique afin de mieux la voir. mieux la voir, mieux voir la vessie, bien sûr. Hein. Ben oui. Hein. La lanterne, j'ai pas besoin de la voir, puisque c'est elle qui va m'éclairer. Hein. Voilà. Non, mais vous êtes bête de croire le contraire. Vessie, lanterne. Bon, la lanterne, c'est pour voir ma vessie. Vous avez toujours pas compris ? Et toi, Madeleine, qu'est-ce que t'attends pour me dire ce que t'as, si tu as pensé à ça ? Parce que t'es la seule auditrice qui peut me parler en direct, hein, dans mes oreillettes. Hein. Ben oui, les autres peuvent pas, il n'y a que toi. Quoi, t'as rien compris ? Oh, allez, va te coucher, va. Non, mais c'est pas beau ce que tu viens de me dire, là. Hein. Hein. Toi aussi, tu prends ta vessie pour une lanterne ? Mais moi, c'est pas pour... je prends pas ma vessie pour une lanterne, c'est pour l'éclairer. C'est pas pareil. Bon, allez, je continue. Je me dirai ce que je pense pour plus de transparence. Je mangerai avec mes doigts pour mieux comprendre les singes. Je pisserai dans l'âme d'une violoncelle pour lui dire combien je l'aime. Je ferai acte de contribution pour laver mes fautes de diction. Je te dirai que ton amour pour moi sent la vanille après m'avoir embrassé. Je veillerai à nos émotions pour qu'elles restent à la maison. Je penserai le contraire du contraire afin de savoir la vérité. Et puis, et pour aujourd'hui, avant demain, je regarderai derrière moi afin de comptabiliser tes baisers d'hier. Voilà. C'est quand même des belles lettres d'amour, ça. Hein, c'est des belles phrases d'amour, quand même. Hein, hein. Bon, à part l'histoire de la lanterne magique, bon, et les vessies, hein, bon. Ouais, bon, ça, c'est un peu de l'amour vache, on va dire. Hein, bon. Bon, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas obligatoirement tout le temps que je fais ça. Hein. Non, non. D'abord, ma vessie, des fois, je l'ignore. Hein. Par contre, ma lanterne, je ne peux pas l'ignorer parce que c'est celle qui m'éclaire. Non. Ah là là. Bon. Qu'est-ce qu'on est ? On est quoi, là ? Ah, oh, on n'est pas loin. Ah non, ça va, on est encore... C'est bon. Alors, cette dame ou ce monsieur, je ne sais plus, c'est un hommage à Tahar Djaou, assassiné le 2 juin 1993. Et c'est un poème de Nadira Naou Youanya. Alors, c'est sûrement en Iran, dans des pays comme ça, hein, ou éventuellement en Afghanistan. Il parla et tout se tut. Allons célébrer les noces du poète et de la terre. Ah oui, ça s'appelle Le poète disparu. J'ai oublié de vous donner le titre. Mais j'étais tellement ému que j'ai oublié le titre. Et puis n'importe comment, un poète, c'est jamais disparu. Parce qu'il laisse toujours quelque chose sur terre, contrairement aux autres. Hein. Il y en a qui laissent des dettes. Nous, les poètes, on laisse des poèmes. C'est pas pareil. Hein. Ah oui. Allons chercher de célébrer les noces du poète et de la terre. Allons déguster les mots pétillants. Quand son sourire se fit sur son visage pâle, léché des résidus d'encre, sur ses doigts déjà raides, et ramasser ses fragments d'étoiles, quand la rime tue la rumeur, son seul et unique crime, fait-on sa rupture avec la muse, allons admirer leur dernière valse, et cueillir des gouttes tièdes qui coulent sur la joue du printemps. Il pleura quand le figuier dénigra ses racines, mais il n'y a pas de répit, dans son silence où tout résonne, dans son rêve où tout fusionne. Il parla et tout se tut. Il mourut et tout s'émut. Voilà, c'est triste. Hein. Ben oui, mais bon, c'est comme ça. C'est dommage de vivre dans un pays où vous risquez d'être tué parce que vous êtes poète. Hein. Heureusement, c'est bien parce que on est à Chamier, là, et à Chamier, ça n'existe pas. Non, on ne tue pas les poètes. Au contraire, on les encense. Non, on les inhume pas, on les encense. Hein, bon, c'est-à-dire, on ne fait pas le truc avec de l'encens. Ça n'a rien à voir, ça. L'encens, c'est quand vous êtes mort. Hein, bon, non, là, on les encense, c'est-à-dire qu'on les admire, on les aime. Hein, on se dévoue à leur cause. Oui, c'est ça. D'ailleurs, après, c'est sa cause. Hein, c'est évident. Donc, c'est normal qu'on se dévoue à notre cause. Hein, bon. Et au fait, Madeleine, qu'est-ce que tu as l'intention de me faire à bouffer à midi ? Quoi ? Des petits pois coupés en 4 ? Non, mais ça va pas, non ? Ah non, non, pas ça, tu les coupes en 4, en 2 seulement. J'aime pas quand ils sont coupés en 4, les petits pois. Je les aime quand ils sont coupés en 2, voilà. Hein ? Alors fais attention, hein, parce que je vais être obligé de changer de muse. Enfin non, toi, t'es pas vraiment une muse, non, non, faut pas... T'as vu une muse, comment c'est fait, hein ? Toi, t'es loin d'être une muse, hein, Madeleine. Hein. Bon. Ouais, bon, faut que tu fasses un effort, hein, si tu veux être une muse. Eh oui, je rigole, ben alors, c'est normal. C'est normal que je rigole, Madeleine, allons. Ça te plaît pas que je rigole? Bah, pourtant, je te dis tes quatre vérités, hein? Ah, tu veux que je te dise que tes deux vérités, pas les quatre? C'est comme les petits pois, ça, tu vois? Hein? Faut pas déconner, non? Bon, alors, je sais même plus où on en est, là. Il me reste encore du temps, oui. Bon, je vais vous lire autre chose, parce que là, Madeleine, ça suffit, hein, tes conneries, hein? Bon, arrête un petit peu avec moi, hein? Quoi? Tu viens de me dire que j'étais un vieux con? Non, mais ça va pas, non? Tu vas voir ce qu'est capable de faire un vieux con, hein? Il va te lire du Baudelaire, un vieux con. T'as déjà vu un vieux con lire du Baudelaire, toi? Non? Bon, alors, arrête un peu, hein? Et tu ferais mieux d'écouter. Alors, Baudelaire. La soupe et les nuages. Tu vois, je parle de soupe. Hein? Bon. Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner. Non, Madeleine, c'est pas toi. Bon. Et par la fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l'impalpable. Et je me disais, à travers ma contemplation, toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que vastes les yeux de ma belle bien-aimée. Tais-toi, Madeleine. Bon, laisse-moi finir. Ma belle bien-aimée, t'inquiète pas, c'était pas toi. Hein. Bon. Ma petite folle monstrueuse aux yeux verts. T'as pas les yeux verts, Madeleine. Bon. Et tout à coup, je reçus un violent coup de poing dans le dos. Oh ben ça, tu serais bien capable de m'enfiler un. Ben là, ça m'étonnerait que tu puisses le faire, parce que moi, je suis à la radio, toi, t'es chez toi. Hein? Bon. Et j'entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique, et comme entourée par l'eau de vie, la voix de ma chère petite bien-aimée. Eh oui, je t'ai trompé. T'es trompé, ma grande. Ouais. Par ma petite chère bien-aimée. Ouais. Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré bougre de marchand de nuages? Ouais, parce qu'elle a fait de la soupe. Toi, tu fais des petits pois coupés en quatre, c'est pas pareil. Alors, enfin, c'était un montage entre Méliès et Baudelaire. Vous avez vu comment ça marche bien? Tout est possible, hein? Eh oui. D'ailleurs, je vais l'écrire, ce truc-là. Comme je vais l'avoir enregistré, hein, parce que mon technicien préféré me met tout sur une clé USB, je vais réécrire ce truc-là et je le mettrai dans un de mes prochains livres. C'est-à-dire le dialogue entre Baudelaire et moi et Madeleine. Hein? Qu'est-ce qu'on faisait? Alors Madeleine, si tu veux être dans mon bouquin, t'as intérêt à m'envoyer une photo. Hein? Et puis pas celle que t'as à 75 ans, là, hein? Celle quand t'avais 25 ans. Hein? Bon, quand même. Et moi, je mettrai la mienne quand j'avais 21 ans, le jour de mon mariage. Mais pas le mariage avec toi, Madeleine. Non, avec Ghislaine. Ben oui, mais c'est pas grave. Je mettrai que moi. Hein? Comme ça, on pourra croire que c'est toi. Mais non, au final, ça sera pas toi. Non. Alors là-dessus, ben, il ne reste pas grand-chose. Bon, alors, Madeleine, est-ce que tu me promets d'être gentille, de me faire des petits pois coupés en deux, cette fois-ci? Et tu peux les farcir, si tu veux, avec des petits oignons bien frais, tu vois, hein? Et tu rajoutes un petit peu de mayonnaise dessus, tu vois, c'est très très bon. C'est une recette que ma dernière femme faisait souvent, hein? Ah oui, elle savait bien le faire, hein? Et si tu ne sais pas la faire, ben je te dis franchement qu'on ne pourra pas continuer ensemble. Ah non. Non, ça ne peut pas durer comme ça. Hein. Moi, il faut que je mange des choses que j'aime. Hein. Pas des trucs à la con que tu me fabriques à chaque fois que tu me cuisines. Hein. Bon, là-dessus, je vais être obligé de vous quitter. Hein. Donc, Madeleine, à tout à l'heure. Tu as intérêt à faire ce que je t'ai dit. Hein. Allez, chers auditeurs, auditrices, je vous aime. Pas tout à fait comme Madeleine, mais un peu plus. Hein. Allez, au revoir.